Bonjour à tous, je suis Karen El-Kaïm et je suis vraiment ravie de vous retrouver ce matin sous ce chapiteau et cette chaleur tropicale. Et justement, nous allons aborder des romans résolument urbains et qui nous racontent plein de choses. Donc voilà, on va partir en voyage ensemble avec Jean d'Amérique, Madeleine Assas et Abigail Assor, que je suis ravie d'accueillir et que je vais vous présenter en quelques mots. Jean d'Amérique voit le jour en 1994 à Côte de Fer, en Haïti. Outre l'animation d'ateliers d'écriture, il publie des textes poétiques dans plusieurs revues ou leur donne vie sur scène. Son premier recueil, Petite fleur du ghetto, sort en 2015. Installé en Europe depuis 2019, il a créé le festival international Transpoétique à Port-au-Prince et dont il est devenu le directeur artistique. Un an plus tard, il publie sa première pièce, Cathédrale des cochons, puis se lance comme romancier dans Soleil à coudre chez Actes Sud, qui a eu le prix Montluc. Il nous entraîne dans un bidonville haïtien auprès de têtes fêlées qui essayent de grandir entre des adultes défaillants, un environnement violent et ses désirs naissants. À mes côtés également, nous avons Madeleine Assas, qui est née à Oran, en Algérie. Elle a grandi dans le sud de la France. Elle a fait des études de lettres et après une maîtrise, elle est montée à Paris, devenue comédienne de théâtre ou ayant certains rôles au cinéma, avec notamment Godard. Elle a toujours été un peu écrivaillante, comme elle le dit elle-même. Après 10 ans de gestation, elle a cette arlésienne, on dit. Les Belges s'en sortent jamais dans tout ça. Elle publie son premier roman, Le Doorman, chez Actes Sud, qui nous embarque à New York, où l'on suit durant 40 ans un homme aussi effacé qu'essentiel, témoin privilégié des habitants d'un immeuble, mais aussi d'une ville qui ne cesse d'évoluer. Mais qui est-il finalement au fond de lui ? Et enfin, nous avons Abigail Assor, qui est née à Casablanca en 1990. Elle a étudié entre Paris et Londres. Chez elle, l'art prend plusieurs formes, notamment le théâtre, le cinéma. Et puis, ce premier roman, aussi riche que le roi aux éditions Gallimard, direction Casablanca dans les années 90, en compagnie de Sarah Edriss. Elle est une adolescente désœuvrée qui rêve de se hisser au plus haut de la société, alors que lui, ce garçon un peu renfermé qui incarne la richesse, est celui qu'elle doit séduire à tout prix. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous. Ce qui vous relie évidemment en premier lieu, c'est l'écriture. Jean, à partir de quand est-ce que vous êtes enfermé dans des livres pour vous ouvrir à plusieurs horizons intéressants, comme vous l'écrivez ?
Bonsoir, bonjour. Ça va aller. Ouais, moi j'ai commencé à voyager dans les livres assez tôt. Bon, peut-être pas assez tôt pour moi parce que j'aurais aimé que ça soit encore plus tôt. Mais quand j'avais autour de 11-12 ans, j'ai d'abord découvert les mots, la poésie par la musique, par le rap. Et après, il y a des professeurs de lettres à l'école qui m'ont emmené vers les livres. Et j'ai commencé ce voyage comme ça, en rencontrant des auteurs qui étaient parfois d'une autre époque, d'un autre pays, et qui me parlaient à moi, l'adolescent. Et j'ai trouvé ça formidable de pouvoir voyager dans d'autres horizons, d'autres villes du monde, sans billet d'avion, sans billet de train. Et voilà. Donc pour moi, le livre était un espace de voyage. Et il y a beaucoup d'auteurs qui m'ont formé depuis ce moment-là. Je pense à... Bon, il y en a plein, hein, des auteurs haïtiens ou d'autres pays. Je pourrais citer Marie Vieux-Chauvet ou Jacques Stéphane Alexis ou... Kateb Yassine, Albert Camus. Enfin, il y en a plein dans mon panthéon littéraire.
Madeleine, est-ce que dès l'enfance, vous lisiez comme vous mangiez, avec appétit, avec délectation, comme le fait l'un de vos personnages ?
Oui, oui, oui. Moi, vraiment, la lecture, comme Jean, je suis tombée dedans, mais vraiment, dès que j'ai pu associer les lettres et en tirer un sens. Et c'était une façon... dans le milieu dans lequel j'étais, assez modeste. Il y avait quelques livres, mais mes parents ne lisaient pas vraiment. Et pour moi, qui était en plus assez petite fille, très fantaisiste d'un côté, mais aussi très solitaire, c'était pour moi une façon de m'extraire comme ça et de créer mon monde. Alors, voyage, oui, peut-être, mais pas forcément géographique. C'était aussi un voyage, c'était aussi devenir... les autres, devenir une héroïne, un héros, un toutou. Enfin, donc je pense que déjà, c'était la vocation de comédienne à 5-6 ans qui peut-être... Enfin, en tout cas, c'était une échappée. C'était une échappée. C'était aller vers un horizon rêvé, bien sûr, mais les livres, ce sont vos meilleurs amis. Moi, je dis toujours, ce sont nos meilleurs amis. Voilà, ils sont avec nous, ils ne nous contrarient pas. Ou même s'ils nous contrarient, ça nous fait plaisir. Voilà, je pense que vraiment, moi, les livres sont mes meilleurs amis.
Je crois que vous prêchez des convaincus. Abigail, vous écrivez que le plus bouleversant, ce n'était pas les choses elles-mêmes, c'était les mots pour le dire. Qu'en est-il des mots à lire, des mots à écrire ? Comment, là aussi, ils sont nés en vous ? Comment est apparu cet amour de la littérature ?
J'ai le souvenir d'avoir effectivement beaucoup lu quand j'étais très petite, enfin dès que j'ai su lire. Mais surtout, je me rappelle assez nettement de l'effet que me faisaient les mots sur la page. Je me souviens que quand j'étais petite, je lisais La Comtesse de Ségur, enfin les livres que lisent les petites filles. Et en fait, je me rappelle que j'étais complètement époustouflée par le mot sur la page, mais pas seulement l'idée à laquelle le mot renvoyait, mais simplement au signifiant, en fait, le mot lui-même, comment les syllabes marchaient entre elles, et puis comment la forme du mot sur la page. Et puis je me souviens que la nuit, je rêvais de ces mots, et je les voyais sur la page, et puis je répétais les phrases que j'avais lues. Mais vraiment, j'ai des phrases de la comtesse de Ségur de moi quand j'avais 6 ans et que je revois sur la page. Par exemple, la mère de Camille qui lui demande si elle reprendra du vin. Et donc, c'est une phrase très simple et je me rappelle du mot vin sur la page et de tout ce que le mot vin portait, en fait. Il y a le son vin, mais il y a aussi l'image vin, il y a le goût du vin et ça me transportait complètement. Et je sais qu'aujourd'hui, dans mon travail d'écrivain, mais aussi dans ma vie de lectrice, j'ai un rapport aux mots et aux phrases qui est vraiment dans la répétition et dans une sorte d'obsession mentale où je revois les mots et puis je les répète. Et donc, c'est comme une ritournelle, en fait, qui... Je ne sais pas quel effet ça me fait, mais ça me transporte et ça me nourrit. Et ça, c'est depuis l'enfance.
Ce qu'on retrouve dans vos trois romans, même s'ils sont très différents, c'est la présence du silence. Jean, en quoi est-ce que vous diriez qu'il induit une forme de violence et qui vous a peut-être donné envie aussi à vous de mettre des mots et d'imaginer une histoire ?
Oui, je pense que écrire, c'est un désir aussi de contrer cette espèce de silence qui tue, qui nous condamne à l'inexistence, je dirais, à l'inertie. Et les personnages dans ce roman, surtout celle qui raconte, donc Tête Fêlée, on voit que c'est un personnage qui prend le dessus des choses par la parole. Elle existe parce qu'elle raconte sa vie, elle raconte sa ville et son pays. Et en miroir, il y a un personnage qui s'appelle Silence, justement, et qui est un personnage métaphore, donc qui va exister à travers la voix de Tête Fêlée. Je travaille beaucoup sur ce motif-là dans mes textes, d'ailleurs pas seulement ce roman. Ce sont toujours des êtres qui sont aux prises avec le silence, avec les ombres, et qui essayent de se libérer en prenant les mots comme levier. Et donc, c'est un peu à l'image de ma quête dans la vie et dans l'écriture, en fait.
Le silence, on le retrouve également chez vous, puisque le doorman, on va en parler, est un homme plutôt taiseux. Mais il y a aussi l'un des personnages qui dit « Ce silence, c'est ma force, c'est mon arme, ma survie ». En quoi est-ce que le silence est essentiel dans ce livre et pourquoi est-ce que vous faites un travail sur les mots, justement, en écrivant ?
En ce qui concerne... Pardon, excusez-moi. Le silence, je crois qu'il était... Enfin, il était pour moi nécessaire, quand je parle de silence et de cette force-là, du personnage, je pense qu'il était indispensable pour moi de rendre Ray, que l'écho de son être et de son intérieur intime puisse être comme ça coupé de la furie new-yorkaise. Y a le silence parce que dehors, c'est le chaos, ça ne s'arrête pas, et je pense que c'est non seulement un besoin physique, mais lui... Même s'il se laisse emporter, il a besoin de cette... comme vous dites, c'est un taiseux, c'est un contemplatif. Il est là, il s'engage, mais il traverse aussi comme ça les choses, les événements. On a l'impression qu'il ne s'engage pas, mais oui, il s'engage. Mais il a besoin comme ça de ce retrait silencieux, que ce soit lorsqu'il est seul dans son studio ou il s'extrait tout seul, ça peut être aussi dans la rue. Il a besoin de ce silence pour se... Ce n'est pas une fuite, mais je pense qu'il pour se protéger aussi.
Est-ce que c'était également votre cas ? Je pense qu'enfant ou adolescente, vous écriviez un journal intime, puis vous avez d'abord été vers les mots des autres, puisque vous êtes aussi comédienne.
Oui.
Est-ce que c'est aussi ce silence, peut-être, qui vous a mené vers les mots ?
Oui, je pense aussi, mais c'est ou tout ou rien. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça d'une... je parle de moi, quand je vous disais j'étais une petite fille très fantaisiste, je faisais le clown, j'étais insupportable, et puis tout à coup, ploup, c'était terminé, c'était le silence, j'étais dans mon coin, il fallait me secouer pour venir à table parce qu'il fallait que je finisse le livre. Donc je pense que c'est peut-être cette contradiction que je mène aussi en ayant envie et à la fois de m'exprimer et de faire du son. Avec le théâtre, surtout d'ailleurs avec le théâtre, je suis plutôt une comédienne de théâtre, et également de me recueillir, moi, dans cette solitude silencieuse, parce qu'en plus, par exemple, c'est une anecdote, mais moi j'écris dans « Il faut qu'il y ait du silence total », je ne peux pas écrire en musique, je ne peux pas, peut-être que j'en... Oui, mais ouais. Voilà, moi, il faut que ça soit le silence, et j'ai besoin des deux.
On le voit avec Driss, Abigail, c'est un garçon également plutôt mutique. Et vous écrivez qu'un garçon qui ne parle pas, c'est infini. Et en même temps, c'est lui, ce garçon-là, qui va apprendre des tas de mots à votre héroïne. En quoi est-ce que, à travers ce livre, vous vouliez justement explorer à la fois l'apprentissage du langage avec les mots, mais aussi le langage des corps ?
Explorer le langage avec les mots, je pense que c'est, au fond, toute tentative d'écriture. Je me souviens d'une phrase de Sartre qui dit que ce qui est exceptionnel avec l'écriture, c'est que si on écrit... c'est pas l'exemple de Sartre, hein, mais j'invente. Par exemple, si on écrit girafe, la girafe existe. C'est de la magie. On oublie à quel point c'est de la magie. Et puis non seulement la girafe existe, mais si on la met en rapport avec un léopard, un rapport existe et le monde existe. Et potentiel de création. En fait, je m'en remets pas, j'arrive pas à y croire. En fait, c'est incroyable. Et puis tous les humains font ça. C'est pas seulement les écrivains. C'est tous les humains créent en permanence, racontent des histoires. Et en fait, ils créent d'autres mondes dans le monde. Ils créent d'autres dimensions. Et ça, c'est à travers un matériau qui est très concret, qui est fait de lettres et d'un alphabet fini, qui porte l'infini. Il y a un passage magnifique d'Alessandro Baricco, qui est un de mes auteurs préférés, où il parle d'un pianiste qui parle de son piano et qui dit, voilà, c'est dans Novecento. Le piano, il dit, il y a 88 touches. Ces touches-là, elles sont finies. Mais toi, tu es infini. Et en fait, l'art, la musique dans ce cas-là, mais l'écriture, toute forme de création, c'est toujours une façon de contenir l'infini qu'on porte tous. À la fois le contenir, parce qu'il est effrayant, mais aussi le toucher du doigt, parce que c'est une façon de le traduire, de le transmettre. Donc, que ce soit ces notes finies du piano ou cet alphabet qui est fini et ces mots qui sont finis, en fait, ça porte l'infini. Et ça, c'est une exploration qui au fond, est jamais terminée. Et ça donne un peu le vertige quand on est artiste. Et en même temps, ça rend heureux parce que c'est jamais fini.
Vous le disiez, l'écriture, c'est une forme de magie, mais c'est aussi pour vous une forme d'engagement. Pourquoi ?
C'est vrai que c'est aussi une forme d'engagement. Dans mon roman, dans Aussi riche que le roi, je parle donc du Maroc, du système, des systèmes de domination au Maroc. Ce que j'ai réalisé en écrivant, c'est que on vit tous dans des systèmes. Hein, on est tous dans un système. Les systèmes, c'est tout. Il y a un système entre deux personnes. Il y a un système. Il y a un écosystème qui se crée. Et parfois, on a l'impression que le système, on ne peut pas s'en défaire, qu'il est autour de nous, qu'il est plus fort que nous, et que nous, ben justement, on doit se taire et puis on doit vivre au sein de ce système. Quand on écrit, et qu'on est capable d'écrire une histoire depuis le début jusqu'à la fin, depuis « Il était une fois » jusqu'au mot « fin », on crée soi-même un système, on crée un monde. Et donc, quand on se rend compte de ça, qu'on est à la fois victime ou soumis à un système, mais qu'on est aussi capable de le créer ou de le recréer, bah, le système, il est beaucoup moins effrayant. Dans le cadre de mon roman, moi, j'ai vécu au Maroc jusqu'à mes 18 ans. J'étais vraiment soumise à un système de domination. Mais le jour où j'ai réussi à le réécrire comme une petite bulle dans ce roman, et ben alors d'un coup ce système de domination il me paraissait mais complètement absurde, parce que je voyais tous les codes, tout ce qui était employé pour créer ce système, et ben ça fait beaucoup moins peur. Donc l'écriture elle est effectivement engagée parce qu'elle détricote ce qui nous est imposé, mais le fait de détricoter rend les choses beaucoup moins effrayantes.
Alors, Jean, avec vous, on n'est pas au Maroc, on est en Haïti, qui est résolument une terre de poésie. Pourquoi est-ce que cette terre vous inspire ? Pourquoi est-ce que cette terre est tellement présente dans ce roman ?
Je dirais même qu'elle ne m'inspire pas forcément, mais elle est en moi, elle est imprimée, parce que c'est le lieu de mon enfance, c'est le lieu de ma vie où j'ai grandi, en fait. Grandir dans tous les sens du terme. Hein. Et donc, il y a une sorte de... Pour moi, c'est une évidence que quand j'écris, que Haïti, que Port-au-Prince apparaît à un moment donné. Parce que mon imaginaire... Il a pris chair dans cette terre avec ses bonheurs, ses peines, ses ombres, ses lumières. Et ce qui m'amène à écrire, c'est quelque chose qui est provoqué par mon rapport avec ce lieu. C'est pas juste un matin, on se lève et je me dis, allez, je vais écrire un petit texte Je vais chercher un sujet, et donc Port-au-Prince, Haïti. C'est vraiment une, pour moi, quelque chose qui est provoqué. C'est comme imaginer ce corps-là qui vit dans Port-au-Prince et qui a vu des choses, qui a entendu des choses, qui en a vécu. Et toutes les marques, toutes les blessures que ça a laissé, cette vie-là a laissé sur ce corps, ben à un moment donné, ce corps, il réagit. Il essaye d'agir aussi pour transformer ce réel qui l'entoure. Et du coup, un des moyens de le faire, c'est l'écriture. Donc pour moi, il y a un état qui précède l'écriture, qui est très lié à une forme de, comment dire, tellement ancrée dans le réel, et du coup qui m'amène à vouloir agir sur ce réel et le transformer. Parce que quand on a vécu, quand on a traversé des lieux qui sont marqués autant par, je dirais, des privations, des inégalités sociales, de la violence, il y a une forme d'indignation qui nous traverse, en tout cas moi, qui m'habite et qui me pousse à vouloir changer les choses et donc à m'engager. Et un des moyens de le faire, c'est l'écriture. C'est pas le seul, mais c'est un des moyens où je peux agir. Et j'écris avec cette conscience-là. Et donc, oui, forcément, je parle d'Haïti, je parle de Port-au-Prince. Même si c'est pas que, en fait, parce que pour moi, quand j'écris à partir, comme c'est le cas dans le roman, quand j'écris à partir d'un corridor dans un bidonville à Port-au-Prince, je parle pas que de Port-au-Prince, je parle du monde, je parle de l'humanité, parce que ça fait partie de l'humanité.
Madeleine, contrairement à Miguel et à Jean, vous n'êtes pas née à New York, vous n'avez pas grandi à New York, et néanmoins vous êtes profondément habitée par cette ville. Pourquoi? Est-ce que c'est la littérature américaine qui vous a amenée vers New York? Est-ce que ce sont des voyages? Pourquoi cette ville est tellement importante et au cœur de ce livre?
Au cœur de ce livre, d'abord parce que je voulais vraiment écrire sur New York, qui est une ville que j'aime beaucoup, où j'ai passé du temps à l'occasion de voyages dès très jeune. Une ville qui est... je ne suis pas fascinée parce que je la trouve à la fois sublime et horrible, inhumaine et douce, romantique presque. Et en même temps, c'est quand même une ville où on peut dire marche ou crève. Donc c'est ce paradoxe, ce comme je disais tout à l'heure, ce chaos qui m'a, je crois, quand même charmée. Et comme je voulais écrire sur cette ville que je trouve évidemment, bon, que j'avais découvert la littérature, le cinéma, évidemment cette ville. Quand on y va la première fois, on a l'impression qu'on la connaît tellement on l'a vue. Donc pour moi, c'est aussi une ville très romanesque. Mais comme je voulais aussi parler d'exil, parce que c'est aussi le thème de mon livre, il me semblait que cette ville-là était... Enfin, pour moi, New York est vraiment la ville, je ne sais plus trop aujourd'hui, mais était vraiment la ville des exilés. Je parle de voilà, New York, comment cette ville s'est construite au fil des siècles et très rapidement, avec les arrivées successives, je pense surtout à la fin 18e, 19e et 20e. Et donc, puisque mon héros arrive dans les années 60, et un immigré d'ailleurs assez atypique par rapport à tous ceux qui sont voilà, les Italiens, les Irlandais, les Chinois, les Allemands, les Hollandais, etc. Donc, je voulais... Voilà, c'est New York, parce que pour moi, New York est la ville peut-être de l'exil par excellence. Enfin, peut-être un peu une image un peu romantique, hein, je tiens à dire, je pense qu'aujourd'hui c'est tout à fait différent, en plus avec tout ce qui s'est passé politiquement, etc. Mais c'est indissociable pour moi. C'était la ville, c'est ce tour de Babel très, 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 très particulière qui vous dévore et qui peut aussi vous rendre enfin, comme un dieu. Enfin, je veux dire, on est des phénix, on peut être des phénix dans cette ville. Et voilà pourquoi Mais c'est vrai, je me suis dit, je veux écrire sur New York.
En exergue de ce livre, vous mettez cette phrase du prix Nobel Isaac Pachevé-Singer, « New York est un perpétuel tohu-bohu et chaos », comme il écrit. Est-ce que vous diriez que dans ce roman, New York est presque un personnage à part entière, un personnage qu'on voit grandir, puisque oui. Vous suivez cette ville sur 40 ans, travers toute une évolution?
Oui, je crois qu'il y a vraiment deux personnages. Il y a le doorman et il y a New York. Et le doorman qui, quelquefois je dis, mais le doorman c'est New York et New York c'est le doorman. Enfin, comme si les deux personnages se... Oui, je parle personnage pour une ville, c'est un peu malhabile, se confondent. Et c'est vrai qu'on voit, c'est la traversée d'une vie, et c'est aussi la traversée d'une ville, enfin au premier sens du terme, puisqu'il n'arrête pas de la traverser, et également au fil des années, comment cette ville, lui vieillit de sa vie d'homme, modestement, hein, sans trop, c'est jamais très spectaculaire. En revanche, la ville se transforme. Il y a des destructions, des reconstructions, il y a la gentrification. Donc je voulais aussi parler de cette transformation qui la rend peut-être au fil des années peut-être plus inhumaine encore qu'elle ne l'est. Au moment de son arrivée, je pense que ça n'est pas la même New York qu'au moment de son départ. Donc c'est vraiment, en effet, c'est vraiment ils cheminent ensemble, la ville et lui.
Abigail, vous situez votre roman dans le Maroc, mais le Maroc à une époque très précise, le Maroc des années 90, enfin 90. une époque très particulière. Qu'est-ce qui vous a inspiré de cette époque-là? Comment vous l'avez reconstituée?
Alors, c'est vrai, les années 90, c'était ce qu'on appelle les années de plomb au Maroc. Donc, c'était vraiment une période de répression politique et religieuse qui était très, très pesante. Elle est moindre aujourd'hui, cette répression, mais elle existe. Mais c'est vrai que dans les années 90, c'était vraiment particulier. Il y a très, très peu de liberté d'expression. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Il y avait des assassinats commandés par le gouvernement. Il ne faisait pas vraiment bon vivre à Casablanca quand on n'était pas complètement soumis au code. C'était quand même un pari risqué parce que moi, en 94, au moment de l'intrigue, j'avais 3 ans, donc je n'ai pas vraiment de souvenirs de cette période. Mais je tenais vraiment à placer l'intrigue pendant les années de plomb, aussi parce que le roman est construit comme un conte qui est vite détourné et qui devient très amer et pas du tout un conte de fées, mais ça commence comme un conte un peu archétypal avant d'en dévier. Et j'aimais cette idée de ville presque recluse, entourée par cet océan. Et puis les personnages sont obsédés par le fait que de l'autre côté de l'océan, il y a l'Amérique. Et ils se sentent complètement enfermés, incapables de partir, de quitter le système qui les oppresse. Et je trouvais que ça avait encore plus de sens de placer tout ça dans les années 90 parce qu'il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, il n'y avait pas encore toutes ces fenêtres sur le monde. Le sentiment d'enfermement était, je pense, beaucoup plus prégnant.
Il y règne aussi une forme d'amertume, un sentiment de fatalité. En quoi est-ce que ça déteint sur vos personnages?
Alors... Le sentiment d'amertume et de fatalité, je ne sais pas si c'est ce qui règne à Casablanca ou si c'est ce qui règne en moi, mais c'est vrai que j'ai une vision très, très déterministe de ce que le système marocain propose et j'ai de l'amertume moi-même envers ce pays, que j'aime aussi, mais bon, c'est l'ambivalence des rapports qu'on a avec un pays. Mais effectivement, tous les personnages, il y en a plusieurs, mais je vais me concentrer sur les deux principaux qui sont Sarah et Driss. Ils sont traversés de ce, ce désespoir, mais qui, comme toutes les émotions fortes, laisse place souvent à son contraire. Donc, ce désespoir et cet espoir. Sarah, elle a un espoir fou de sortir de sa condition sociale, de quitter le déterminisme. Et puis, parfois, c'est un désespoir total. Driss, il est désespéré, il a complètement abandonné. Et puis à la fin, il est plein d'espoir, un espoir qui de toute façon ne mène à rien, parce que c'est vrai que c'est un livre assez pessimiste là-dessus. Mais effectivement, tous les personnages sont traversés de cet espoir, ce désespoir, ce rapport à la fatalité, qui, je pense, est ressenti peut-être par les citoyens marocains et casablancais en particulier. Je pense que ça, c'est une émotion qui est partagée.
Jean, moi j'ai envie de dire, dans ce livre, Port-au-Prince est aussi presque un personnage à part entière. C'est pas juste un décor. On a l'impression que cette ville respire, qu'elle souffre, qu'elle est pleine de bruit, pleine de silence. On parlait d'ambivalence, c'est aussi le cas de cette terre. Et vous situez particulièrement le roman dans un bidonville crasseux, comme vous l'écrivez. Pourquoi est-ce que c'est là que vous aviez envie de nous amener, nous lecteurs ?
Disons que peut-être même l'ambition de ce texte était de faire une sorte de portrait de Port-au-Prince, une sorte de cartographie sociale, politique de cette ville, plongée vraiment dans ses bas-fonds. Bon, après, il y a beaucoup de raisons qui sont liées à mon parcours aussi, parce que moi, j'ai passé ma vie dans ces lieux. Mon adolescence, c'est ça. Et du coup, je me posais cette question pour un enfant qui grandit, voilà, quelqu'un qui naît dans ces lieux et qui grandit, comment tu te construis, comment tu deviens quelqu'un, comment tu arrives à avoir une existence dans ces lieux qui sont pas faits pour, en fait. On a l'impression que tout est préparé pour qu'on soit englouti comme dans la grande nuit, comme je dis dans le texte. Et donc, moi, j'avais envie d'aller vraiment voir les entrailles de cette ville, parce que c'est là, c'est dans ces plaies qu'on peut voir comment ce pays, il est fracturé, en fait, par une espèce de montagne d'inégalité sociale et qui est vraiment fabriquée. Voilà, on a depuis très longtemps... enfin, moi, j'ai grandi dans ce pays. Je ne me suis jamais senti représenté par l'État, par exemple. Et je pense que ce sentiment, il est partagé par la plupart des Haïtiens qui se sentent complètement abandonnés. Et donc, j'avais envie d'aller voir, voilà, dans ces quartiers-là, amener les gens voir cette réalité, les donner à voir et montrer aussi comment des gens qui sont aussi abandonnés arrivent à composer une vie, à s'organiser. D'ailleurs, précisément... dans ce bidonville où se passe l'histoire, c'est des gens qui étaient qui n'avaient pas où se loger et qui ont décidé de prendre des parcelles de terre, et ils ont construit leur petite maison très bancale, mais ils se sont construits un lieu pour vivre, pour organiser leur vie. Et à un moment donné, l'État a même essayé de les arracher de ce lieu, et ils se sont battus, ils y sont restés, et ils continuent à résister et à se battre. Moi, je salue aussi cette force et cette dignité de vivre. Donc, je voulais montrer, voilà, à la fois... cette violence fabriquée et, et avec laquelle les gens ils sont obligés de vivre. Donc comment faire là-dedans et aussi montrer la dignité et la force de vivre, la rage de vivre de ces gens.
Cette urgence de vivre, on la retrouve aussi chez vous, Abigail, alors que chez vous, Madeleine, au contraire, on a l'impression que Dorman se laisse vivre à un rythme très, très lent. On n'est pas du tout dans l'urgence. Ce personnage, il est... Il y a aussi une forme de dualité qu'on retrouve d'ailleurs dans vos trois romans, puisque, comme vous l'écrivez, il est à la fois omniprésent et invisible. Pourquoi est-ce que ça en fait du coup un témoin privilégié à la fois de son immeuble et aussi de cette ville ?
Quand je parle d'invisibilité, c'est parce que je pense à ces personnes qu'on voit derrière, enfin, sous uniforme. Et... c'est ça, en fait, c'est pas du tout négatif. C'est qu'il est à la fois visible et invisible, omniprésent et absent. Il a cette fonction qui est une fonction d'utilité, de service, comme beaucoup de ces personnes qu'on voit à New York, souvent des uniformes, des t-shirts siglés, des casquettes, et qui sont comme ça, pour moi... je les appelle avec beaucoup d'affection les fourmis industrieuses de la ville. Et pour moi, ce sont eux qui font fonctionner la ville. Ce sont eux les vrais rouages de la ville. C'est pas, c'est bien sûr Wall Street et compagnie, et Trump et tout ça, mais c'est vraiment eux qui font fonctionner quand on les voit écrasés de fatigue dans les métros. Voilà. Et c'était aussi pour moi une façon, pas de rendre hommage, c'est vraiment modestement, c'est pas un roman engagé, mais j'essaie comme ça par touche, parce que je pense être plutôt dans l'impressionnisme. Voilà, c'était une façon aussi de parler de ces invisibles. Mais lui, il a une position très particulière dans cette, à la porte de cet immeuble qui est quand même, pour préciser, on est dans les beaux quartiers, on est quand même dans un milieu social nanti, riche, privilégié. Et donc, il est comme il est à la fois dedans et dehors. Pour moi, c'était l'observateur parfait d'un monde, du monde intérieur, que je décris d'ailleurs dans ce qu'on appelle, pour ceux qui ont lu et celles et ceux qui ont lu le livre, les morceaux choisis, et puis également ces déambulations, mais qui sont plus que des déambulations. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il passe, qu'il se laisse aller comme ça, mais non, il y a quelque chose quand même, pour moi, il a quelque chose de, à l'intérieur qui fait qu'il doit... Pour moi, c'est un peu l'homme qui marche de Giacometti. Il est toujours en mouvement. Même quand il est immobile devant sa porte, il marche dans sa tête. Il ne peut pas s'arrêter. Et c'est justement le tohu-bohu peut-être de cette ville qui lui permet ce mouvement perpétuel, parce que je crois que s'il s'arrête vraiment, il meurt. Il avance avec ce passé derrière lui qu'il veut oublier, qu'il a coupé les ponts. Et voilà, je pense que c'est aussi un contemplatif. Hein. C'est aussi un contemplatif, mais beaucoup tourné vers les autres, peut-être pour s'oublier lui-même. C'est sans fin, ces questions.
Et c'est vrai qu'il incarne du coup aussi l'American Dream, le rêve américain, oui. Qui nous fait croire qu'on peut effacer nos vies, tout réécrire, tout réinventer, ce qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans ces trois romans.
Oui, c'est pour ça que je dis maintenant, moi je pense franchement qu'il n'y a plus de rêve américain, mais même s'il y a encore des vagues des migrants qui essaient mais ce n'est plus l'Eldorado, comme à cette époque-là, encore, dans les années 60, ça pouvait l'être. Et d'autant plus, c'est là où il y a peut-être le mythe de l'Amérique, l'American Dream, c'est que je le fais naître en 1933. Là, c'est vraiment un clin d'œil à mes parents qui sont de cette génération. Et c'est vrai que cette génération-là qui a connu la guerre a vu arriver les Américains, des gens modestes qui ne s'embarrassaient pas des problèmes politiques, économiques. Pour eux, c'était les Superman, ça a été des sauveurs. Enfin, moi, je sais que dans ma famille, j'ai entendu une partie de ma famille, c'était vraiment les sauveurs. Sinon, ils finissaient là où on sait. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être ce petit garçon, quand Ray est enfant, qu'il croise ce soldat américain. Je pense que c'est déjà alimenté par cette... Il est quand même très raccordé à son enfance, je crois. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui fait qu'il part. New York, ce n'est pas la France qui va l'accueillir. Il ne se sent aucun lien avec la France. Donc, ça devient en effet, une terre mythique sur laquelle il va se réinventer et essayer de renaître.
Alors, ce sont des terres aussi très, très contrastées qu'on retrouve chez vous trois. Abigail, vous opposez deux mondes, à la fois le monde des riches et le monde des pauvres, mais aussi le monde des hommes et le monde des femmes, puisqu'en fonction du sexe qu'on a, on n'habite pas la ville et l'espace de la même manière. Pourquoi ?
C'est vrai que... À Casablanca, au Maroc et je pense dans le monde, c'est assez universel, c'est juste pas aux mêmes échelles. Tout au fond est une danse de dominant et de dominé. Au Maroc, en tout cas dans le livre, je dis effectivement que les riches clairement dominent les pauvres, mais que les riches sont eux-mêmes dominés par des plus riches et des plus nobles, qui sont tous dominés par le roi. Il y a vraiment... Il y a une phrase dans le livre qui dit « Dominer, c'est la langue nationale, en fait. C'est toujours comment je peux asseoir mon pouvoir et soumettre la personne en face de moi. » Et c'est pas quelque chose qui est... je ne dis pas que c'est au niveau individuel et que les personnes sont très méchantes. Je dis qu'en fait, c'est structurel. Tout est mis en place pour que les personnes qu'on a décidé de soumettre, donc souvent les femmes et les pauvres, restent à leur place. En l'occurrence, l'espace public, par exemple, n'est pas du tout un espace qui accueille les femmes. Il y a quelques femmes dans la rue, mais on ne voit qu'elles, en fait. C'est tellement lunaire qu'elles soient là qu'on leur fait bien sentir qu'elles sont là. Donc, on les siffle, on leur fait sentir que cet espace n'est pas le leur. Et je ne jette même pas la pierre à ceux qui sifflent, parce que ceux qui sifflent, souvent, c'est des personnes dans la rue qui, elles-mêmes, sont dominées par des personnes plus riches qu'elles et qui, en fait, ont tellement d'amertume que ça crée de la violence et que ça crée la volonté de dominer quelqu'un d'autre pour oublier qu'on a été dominé soi. Et donc, en fait, c'est un système comme ça en chaîne qui ne s'arrête jamais, où tout au-dessus, y a une personne qui est à peu près tranquille et c'est le roi. Donc, il n'y a qu'une seule place et c'est pas par le vote qu'on l'a, donc c'est au fond un pays où, d'une certaine manière, on a toujours déjà perdu, qui que l'on soit.
On peut se dire qu'en Haïti, c'est aussi le cas, surtout dans le milieu que vous décrivez, qu'ils ont tout perdu, qu'ils ont du coup peut-être plus rien à perdre et que c'est ça qui les anime également. Cette opposition chez vous, Jean, j'ai plus envie de dire que c'est celle entre la lumière et l'ombre humaine. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce paradoxe ? Est-ce qu'on peut être les deux à la fois ?
Oui, tout à fait. Je pense qu'on est, on est tous un peu. On a tous, ouais, je pense une petite part d'humanité et voilà, un côté sombre aussi. Et l'expérience de la vie, c'est qu'est-ce qu'on en fait en fait de cette part d'humanité ? Est-ce qu'on arrive à l'exprimer, à l'affirmer le plus possible. Du coup, pour ces personnages, je voulais justement ne pas être dans un endroit de jugement par rapport à leur vie, en fait, qui est où ils sont en face d'une vie qui est chargée de violence pour eux et comment ils agissent pour survivre. On voit pour l'héroïne Tête Fêlée, la narratrice, elle c'est une enfant de 12 ans. Elle est vraiment dans un monde qui n'est pas fait pour qu'elle puisse vivre tranquillement. Et des fois, on voit qu'elle va reproduire cette violence même. Elle l'a subie, mais elle la reproduit aussi. Mais au fond, sa quête, elle veut vivre tout simplement. Et donc, Oui, je n'étais pas dans un endroit de jugement par rapport à elle. Au contraire, j'étais avec elle dans son combat pour vivre. Et du coup, après, j'essaye aussi d'amener des espèces d'endroits de consolation pour elle aussi, des fenêtres de vie, de lumière, justement. Qui tire à l'autre bout de la corde, peut-être. Notamment, elle va tomber amoureuse d'une camarade de classe, et cet amour-là, ou même l'idée de cet amour-là, va lui donner espoir, une raison de continuer, de se battre. Et aussi les lettres qu'elle essaye d'écrire à cette fille qu'elle aime aussi sont des espaces à la fois d'évasion, de beauté, de ouais, une respiration pour elle. Et donc c'était important de lui donner une raison de continuer, de vivre. Donc oui, je pense qu'on est tous faits de ces deux côtés. Et notre quête dans la vie, c'est peut-être de s'accrocher le plus possible à la part de lumière.
La part de lumière dans votre roman, elle se situe également dans les rencontres, puisque Dorman a beau être un homme solitaire, il est quand même en contact tous les jours avec les gens de son immeuble. En quoi est-ce que ça l'enrichit? En quoi est-ce qu'à force d'absorber les histoires des autres, il devient presque une bibliothèque humaine à part entière?
Oui, je pense quand il arrive à, comme je disais, après avoir laissé son passé derrière lui, c'est vrai qu'il arrive à New York, il arrive dans cette nouvelle ville étrangère, comme une terre vierge lui-même. Mais je pense, là, je me confonds peut-être avec lui, je ne vais pas dire le doorman, c'est moi, comme Flaubert disait Madame Bovary, c'est moi, comme je pense tout auteur, de toute façon, on va dire, oui, évidemment, nos héros, on est. C'est que je pense que ce sont, moi, je pense que ce sont les rencontres, hein, qui font ce qu'on est. Je pense que ce sont les choix qu'on fait qui nous déterminent et qui font qu'on se construit. C'est pour ça qu'on se construit toute sa vie. Enfin, moi, je pense que voilà, on est toujours une terre un peu en jachère. Il faut aller jusqu'au bout, comme ça, jusqu'à la fin. Sinon, c'est pas drôle. Mais c'est vrai que pour répondre à votre question, je pense que ce sont ces rencontres, en effet, qui l'enrichissent, mais qui le construisent. Je pense vraiment, moi, que ce sont les rencontres avec les autres. Comment une rencontre, mais je ne parle même pas de rencontre amoureuse, ça peut être même quelques mots avec un inconnu, tout à coup, va transformer votre journée, comme une insulte dans la rue va vous pourrir la journée aussi. Et ce sont des petites choses, des micro-choses, mais je crois que c'est quelque chose qui fait comment vous répondez, comment on réagit, pourquoi ça me fait. Et ça le puzzle avec ces minuscules petites pièces se constitue. Donc je pense qu'il a, je dis pas qu'il, je pense qu'il a, oui, il a besoin des autres, mais de cette façon plus diffuse que par exemple, qu'à certains lecteurs, parce que je ne veux pas être trop longue, mais certains lecteurs m'ont souvent dit, ah, il n'a pas d'histoire d'amour. Alors je dis, oui, il en a comme ça. Il s'engage pas, il n'a pas d'histoire d'amour. Je dis, bah, écoutez, moi, je vois pas pourquoi il y aurait une histoire d'amour déjà. Et puis si j'avais. Il y avait peut-être une histoire d'amour, c'est avec New York, pour reparler New York, mais je disais, c'est pas. Si il y avait eu une histoire d'amour, ça aurait pris toute la place, évidemment, mais ça ne m'intéressait pas. Donc, en revanche, ce sont c'est comme des étincelles qui, à chaque fois, il y a une lumière quand il rencontre Bentsion, le vieux juif, son ami palestinien, la petite Alma qui va grandir. Enfin, et c'est ça qui fait qu'il construit, qu'il se réinvente. Et quand je parlais de renaissance, mais c'est lui qui choisit, voilà. C'est lui qui choisit au-delà des liens et de tout ce qui nous tombe dessus dès qu'on est, le sang, les origines, on a envie de tous débarrasser de tout ça pour vivre sa vie, quoi.
C'est exactement ce qu'on retrouve chez vous, Abigail, puisqu'il y a cette rencontre improbable, puisque rien n'était fait pour qu'ils se rencontrent entre Sarah et Driss. Qu'est-ce que vous aviez envie d'explorer à travers eux, à travers ces corps, ces classes sociales différentes, ces sexes différents qui vont se rencontrer ?
C'est vrai que le lien entre Sarah et Driss, c'est un lien qui est assez particulier parce que c'est pas tout à fait une histoire d'amour, c'est une sorte peut-être d'histoire d'amitié, presque un lien presque fraternel entre tous les deux, où en fait chacun trouve peut-être en l'autre une porte vers la liberté, parce que l'autre ne juge pas, c'est une relation qui s'épanouit beaucoup dans le silence, donc on les voit être l'un près de l'autre dans le silence, ils entendent le bruit des fourchettes, mais ils sont simplement l'un près de l'autre, parce que finalement être près de l'autre c'est normal. L'autre, pour la première fois, pour chacun, n'est pas un ennemi, n'est pas un regard déshumanisant. On est simplement dans la même bulle que l'autre, en étant parfaitement libre d'être qui on est. Et je voulais explorer ça, notamment pour Sarah, qui est cette jeune fille qui peut paraître un peu détestable au début, qui est très rebelle, insolente, pas toujours très morale, et qui finalement... baisse un peu les armes d'être en face de quelqu'un qui n'attend rien d'elle, qui ne la regarde pas, mais dans le bon sens, en fait, qui ne pose pas sur elle un regard déshumanisant. Et Driss, de la même manière qu'il est complètement soumis au code viril de la masculinité, à tout ce qui est attendu de lui, ben, il est en face de Sarah, qui finalement n'attend rien de lui, à part qu'il lui achète des casquettes et des jolies robes. À part ça, elle porte aucun jugement. Et ce type de relation est très précieux.
La liberté, elle est également présente dans votre livre, puisque vous interrogez peut-être à travers tous ces personnages ce qu'est la liberté intérieure, quel que soit le lieu où on vit, quelle que soit la difficulté de la vie ou les blessures qui nous façonnent. C'est quoi la liberté intérieure pour vous, Jean ?
Grosse question. Mais disons que, en tout cas pour ces personnages, surtout Tête Fêlée, c'était important pour moi qu'elle ait cette force d'agir. C'est-à-dire, elle a besoin de s'affirmer. Elle doit répondre à une urgence de la vie. D'ailleurs, c'est ce qui l'a fait grandir, hein, plus que son âge à proprement parler. C'est les situations auxquelles elle fait face. Et donc, elle doit agir. Et donc, c'était important qu'elle soit libre dans ses actions, parce qu'elle prend des décisions qui sont cruciales pour sa vie, en fait. Et c'était même complexe d'envisager ça parce que c'est une enfant de 12 ans donc qui doit à chaque fois prendre des décisions où l'enjeu c'est la vie ou la mort presque en fait. Après sinon, moi-même dans l'écriture, je cherche à représenter peut-être le monde tel que je l'envisage, tel que j'aimerais qu'il soit. Et donc, avec le plus de brèches, le plus de fenêtres possible, je pense que tout être humain aspire à ça, à un élan de liberté qui nous permet d'être nous-mêmes à un moment donné et de ne pas chercher toujours à répondre à un cadre. Et même ce geste aussi, il se dessine dans le mouvement de l'écriture. Construire un récit ou bien agencer des mots d'une certaine manière qui soit, nouvelle, singulière, toujours prendre des détours et ne pas passer par les sentiers battus dans l'écriture. Moi, c'est ma démarche et je crois que ça reflète aussi mon élan de vie, tout simplement.
Alors, à force d'entendre nos trois écrivains, parce qu'il y a un élan de questions qui va naître chez vous, je vois déjà Claude qui lève son doigt. Il y a plusieurs doigts qui se lèvent dans la salle, donc on peut peut-être leur donner la parole. On va y arriver.
En fait, c'est quasiment trois questions. D'abord, pour Abigail Assor, il me semble quand même qu'à la fin, ils s'aiment. Et ça, c'est absolument merveilleux. Mais il y a un personnage que j'adore, c'est Yaya. Je ne sais pas où vous l'avez trouvé, mais il est formidable. Pour Madeleine Assas, moi qui viens du même pays, je trouve que votre description est parfaite et documentée. Je pense que vos origines l'ont fait sûrement. Mais en plus, Raymond, il est, ses amis sont autour de ses origines quand même. Hein, voilà. Et enfin, comment ça se fait que Haïti soit une pépinière d'écrivains et d'artistes. Ça, c'est... Je suis toujours émerveillé par votre pays. On a eu plusieurs qui sont venus à Chambéry. Mackenzie Orsel, ça me revient, mais il y en a eu d'autres, les Trouillot. Non, sa sœur n'est pas venue, à Lionel, Evelyne Trouillot n'est pas venue. Mais bon, voilà. Trois questions. Merci.
Le bal est ouvert, allez-y.
Alors, j'ai vu des regards pas contents que vous ayez révélé la fin en disant à la fin ils s'aiment. Mais alors je tiens à dire que moi je suis pas d'accord avec vous. À la fin, il y a un lien, mais c'est un lien qui a une certaine forme et surtout la fin est ouverte. On ne sait pas ce qui va advenir.
Mais Claude est un romantique, ça doit être pour
oui.
ça.
Et mais on voit aussi les personnalités, parce qu'il y a des personnes qui terminent le livre plein d'espoir et des personnes qui terminent le livre pleines de désespoir. Oui, moi aussi, j'adore Yaya. J'avais envie d'imaginer un personnage comme ça qui soit à la fois personne et tout le monde, et puis qui fait le lien entre tous ces mondes, qui a plein d'identités pour les autres et pour lui-même. Okay. Sa mère est algérienne, sa mère est tunisienne, sa mère est actrice, son père est un riche marchand. Et puis en fait, non, et puis il disparaît. Quelqu'un qui cherche à s'extraire de tout et qui, aux yeux des autres, est déjà extrait de tout. Ça donne aussi un peu d'espoir d'avoir une identité mouvante comme ça.
Madeleine ?
Oui, Claude. Alors, d'abord, merci pour les compliments. J'ai même pas entendu de questions. J'étais tellement... Bon. Non, mais en effet, alors les personnages proches qui gravitent autour de Ray, en fait, oui, c'est vrai, le vieux juif, le palestinien, mais en tout cas, c'est pas volontaire. J'ai pas voulu faire. J'ai eu une remarque une fois d'un lecteur qui m'a dit: ah oui, alors lui, il est juif, alors le palestinien, alors oui, alors c'est l'entente cordiale. J'ai dit non, j'ai pas voulu faire les Nations Unies, moi pas du tout. Je voulais simplement, en fait, évoquer en ce qui concerne son ami Salah. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas si loin de lui, parce que c'est des origines cousines, mais je voulais parler d'une immigration peut-être que tout le monde, qui n'est pas aussi évidente que les autres, qui était celle juste au début des années 50, en l'occurrence aussi après 1948, une grosse immigration de moyens orientaux, égyptiens, palestiniens, qui sont venus, syriens, qui sont venus habiter New York et qui se sont installés dans un quartier de Brooklyn. Et bon, là, maintenant, c'est un peu terminé, ils se sont disséminés. Il y avait vraiment une forte immigration moyenne-orientale qui ne serait peut-être plus possible aujourd'hui parce que bon, on les prend un peu pour des terroristes, enfin bref. Donc je voulais parler un tout petit peu de ça, mais très légèrement toujours. Et puis quant au vieux juif, évidemment, il est tellement représentatif du Lower East Side, de ce quartier de New York. Voilà. Après, il y a la petite américaine, il y a les gens de son immeuble, mais c'est vrai que les proches, en effet, peuvent être des cousins.
Et vous, cette Haïti, ce vivier d'écrivains et cette jeune génération qui émerge et qu'on a vu ici, je pense à Pierre Néhémy Dahomé, à Mackenzie Orcel, auquel vous rendez hommage en ce livre, à James Noël, à vous à présent, comment ça se fait ?
En fait, je ne sais pas l'expliquer. Je ne sais pas l'expliquer, je le constate aussi. D'ailleurs, après, il y a les écrivains qui ont une résonance ici, qui sont connus ici, mais il y en a plein d'autres dans le pays qui sont publiés en Haïti, qui n'ont pas une diffusion en France. Donc, vous perdez beaucoup de choses. Mais je ne sais pas comment expliquer ce phénomène-là, sinon peut-être la place très forte qu'on donne à la parole, à la poésie déjà beaucoup, qui est le genre majeur là-bas, qui a vraiment un statut majeur là-bas. Et puis peut-être parce qu'on est un pays qui a connu de grandes blessures dans son histoire, et la littérature haïtienne, pour moi, a toujours été très fortement une littérature de combat, je me permets de le dire comme ça. Les premiers textes de la littérature haïtienne ont été écrits, c'était des chants épiques après l'indépendance, une sorte de glorification des victoires de la révolution haïtienne, en fait. Et donc, tout cet élan va continuer et dans toutes les périodes sombres de l'histoire haïtienne, les écrivains, les artistes ont toujours été du côté de la lutte. Donc, j'ai l'impression que, il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons, en fait, de vouloir s'exprimer, de vouloir dire des choses dans l'urgence, être témoin de notre époque, de ce qui se passe autour de nous. Et aujourd'hui, c'est un peu le même mouvement qui se passe. Les jeunes qui écrivent aujourd'hui en Haïti, qui veulent se faire entendre, j'ai pas l'impression que c'est tant pour devenir écrivain absolument. Je sens qu'ils veulent dire des choses qui sont importantes pour eux maintenant et qu'il faut faire entendre au monde. Ouais.
On va prendre une dernière question parce que le temps file malheureusement. Allez-y, madame.
Moi, c'est une question très personnelle pour madame Assas. J'ai beaucoup aimé votre livre. Mais j'ai une question qui m'a habitée pendant toute ma lecture. Je veux dire, mais pourquoi le Dorman est-il si gentil ? Pourquoi n'est-il pas un tout petit peu critique avec le monde qui l'entoure ? Pourquoi n'a-t-il pas de vision un peu politique ?
C'était pas mon propos d'en faire un. C'était plutôt d'en faire un témoin, mais pas de dénoncer. Alors oui, c'est en effet, c'est pour ça que quand je dis qu'il ne s'engage pas, même dans des relations, on a l'impression comme ça qu'il... Mais je pense, gentil, il fait son boulot. Il fait son travail. Et il a intérêt à bien le faire, hein, parce que là-bas, si on ne fait pas bien... Enfin, bon, comme partout, mais bon, il fait son travail. Je pense que ça, c'est la part la plus importante, peut-être, de sa... C'est quasiment de l'ordre d'une mission, peut-être. Donc je pense que il a beaucoup d'empathie, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, de compassion pour les gens, il a ce regard-là. Mais si lui, en effet, ne critique pas, enfin sa parole est directement dénonciatrice de quelque chose, moi, vous trouverez. Voilà. Mais je lui donne pas la parole pour ça. C'est pas, voilà, pour moi, c'était pas mon propos. Mais voilà, moi, en revanche, je ne dis pas l'auteur, voilà, la troisième personne, mais je voulais quand même, c'est pas les bisounours, hein, distillés. Mais c'est très, voilà. Mais il y en a même d'ailleurs certains que certains lecteurs ont trouvé, et moi j'en avais même pas conscience. Parce que ça, c'est ça, parce que j'adore les échanges, parce que quelquefois les lecteurs vous font découvrir des choses que vous n'avez pas du tout conscience de faire. Donc voilà, si relisez-le.
Il est tout petit.
C'est un gros bébé. Voilà, non, mais c'est très léger. Voilà, disons que le propos général est ailleurs.
Alors, peut-être, oui, comme monsieur lève la main depuis le début, on va juste prendre monsieur. Attendez, on va vous tendre le micro, sinon on ne vous entend pas, monsieur.
Oui, bonjour. Deux questions. Donc, Abigail, la sœur, pourquoi la France ne fait plus rêver ? Parce que donc les jeunes Marocains pensent à l'Amérique, pensent plus à la France. Bon, alors peut-être question stupide, mais bon, voilà. Pourquoi la France ne fait plus rêver ? Et question à Madeleine Assas. Le Dorman revient en Algérie. On pense qu'il se réconcilie avec son pays natal. Est-ce qu'à la fin de sa vie, il va rester en Algérie ou il va repartir à New York ou peu importe ? Merci.
Mais je réponds avant toi, parce que ça sera très bref. Je ne sais pas.
Abigail,
Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je trouve que la France fait encore rêver. Alors, pendant le livre, c'est vrai qu'il parle beaucoup de l'Amérique, mais il parle aussi beaucoup de la France. Il y a un moment, il y a le personnage d'une femme de ménage qui dit à Sarah qui est française, qui lui dit « Mais moi, si comme toi, j'avais le passeport, j'irais vivre en France. » On dit que là-bas, les gens sont égaux. Elle y croit vraiment. Donc, ils sont plus égaux qu'au Maroc, mais bon, on n'y est pas encore. Hein. Donc, il y a quand même ce rêve de la France, mais qui, moi, me met un peu mal à l'aise. J'en suis la première victime. Je suis venue m'installer en France. Je suis fan de la France. J'adore la sécurité sociale, la justice. J'adore la France. Mais ça me met un peu mal à l'aise parce que, bon, c'était quand même le pays qui nous a colonisés. Et parfois, je me dis que c'est même un peu trop de fascination. Mais bon, c'est mon avis.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à nos trois écrivains. Si vous le souhaitez, ils vont signer leur livre. Donc, n'hésitez pas à aller les voir et à leur poser d'autres questions ou à discuter avec vous. En tout cas, merci beaucoup à vous trois et merci à vous pour votre attention.